Donc bonsoir, dernière séance de ce cycle consacré au rapport du désir, de la lettre, du bien dire, de l'étonnement dans la philosophie. Donc ce soir, je souhaite vous parler du rapport entre la philosophie et la psychanalyse. Et bon, il n'y a pas toujours très élégant de commencer avec des excuses, mais je vais quand même en faire. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il m'arrive de faire des petites entorses au programme, notamment sur les auteurs auxquels je vais me consacrer. Là, j'avais annoncé Deleuze et Lacan. Je vais bien sûr en parler un peu, mais ils seront aussi réintégrés à un contexte un peu plus global. Je ne vais pas forcément rentrer Deleuze, j'en avais déjà un peu parlé dans le premier cours sur sa théorie du désir, et Lacan, j'en parlerai un petit peu plus, mais je vais aussi parler de Freud, sur la psychanalyse, c'est un peu normal quand même. Et donc ça ne sera pas centré absolument sur ces deux auteurs, mais c'est bien sûr le rapport entre philosophie et psychanalyse qui va m'intéresser ce soir. Alors, pourquoi parler de ce rapport entre philosophie et psychanalyse ? Le cycle était consacré beaucoup à la question du désir, et au fond, est-ce que ce serait donner raison à David Rabouin, dont j'avais parlé dans le premier cours, où dès qu'on parle de désir, on est forcé, absolument forcé, de parler de la psychanalyse ? Parce que la pression idéologique est telle qu'on se sent obligé d'en parler. En fait, c'est une raison beaucoup plus, peut-être qu'elle existe en moi inconsciemment, mais c'est une raison beaucoup plus, liée à ce que j'essaye de développer sur l'étonnement philosophique. Parce que, Je ne pense pas que la psychanalyse offre des recettes, des explications au comportement humain, ni même qu'elle apporterait des concepts nouveaux à la philosophie. C'est des points que je développerai, mais en revanche, du point de vue de la philosophie, et c'est ce que je vais essayer de développer ce soir, malgré la liaison dangereuse entre ces deux domaines, je pense que la philosophie ne peut plus être la même depuis les découvertes psychanalytiques. Et c'est ça que je voudrais développer ce soir, si possible, au-delà de, ou en deçà, je ne sais pas, de des querelles institutionnelles, politiques, idéologiques, dont je vais parler un peu quand même au début, mais essayer de voir quand même qu'est-ce que signifie ce rapport au-delà de la liaison dangereuse dans laquelle il se caricature sans cesse dans notre société. Pourquoi ? Également parce que, c'est ce que j'essaierai de développer, j'ai théorisé jusqu'à... Merci beaucoup. Jusqu'à maintenant, j'ai surtout théorisé ce qui me semblait être fondamental dans l'étonnement philosophique. Je voudrais vous en donner un exemple ce soir d'une forme d'étonnement qui, justement, incarne un style neuf. Je voudrais vous montrer ce que c'est qu'un coup de force en philosophie, un étonnement radical. Et c'est quelque chose que, justement, la psychanalyse, par ses découvertes, peut amener dans la philosophie. Et donc voilà, c'est ça que je vais essayer de développer. Quel est cet étonnement amené par la psychanalyse dans la philosophie ? Comment le traduire, et comment le traduire au-delà des simplifications qui sont adressées par le camp psychanalytique au camp des philosophes et vice-versa. Alors, il faut quand même, je parle d'une liaison dangereuse, donc il faut quand même que je l'évoque un peu. Si on regarde les philosophes et les psychanalystes aujourd'hui, c'est peu dire qu'ils ne s'aiment pas tellement. On voit bien sûr des quelques exceptions à cela. Hein. Vous avez dans des universités assez connues où il y a de la philosophie, mais il y a aussi des départements de psychanalyse. Il y a quelques centres de recherche à Paris notamment où on fait des recherches sur le croisement entre philosophie et psychanalyse. Mais dans le fond, bon, ce qu'on connaît d'un point de vue médiatique, d'un point de vue institutionnel aussi, la relation entre ces deux domaines est plutôt conflictuelle. Je fais quelques rappels. Et vous voyez, je vais vous montrer que dans un camp comme dans l'autre, je crois qu'on n'a rien à envier à l'autre. Alors, le dernier événement le plus médiatique, évidemment, c'est le livre de Michel Onfray concernant Freud, Le crépuscule d'une idole, où Michel Onfray rappelle. Donc là, je vais vous parler du point de vue des philosophes sur la psychanalyse ou les psychanalystes. Où Michel Onfray rappelle notamment un certain nombre de, selon lui, de manipulations que Freud aurait effectuées sur les statistiques des guérisons qu'il a eues, sur ses croyances ésotériques, à la numérologie, etc., sur son addiction à l'héroïne, la cocaïne, je ne sais plus, cocaïne. Tous ces aspects, donc, qui son attirance pour l'argent aussi, enfin bref, tout son intérêt, voilà, qui pouvait y avoir. En fait, ce livre reprend aussi en partie, il n'est pas du tout le seul hein, à avoir développé ce type de d'argumentation sur Freud, puisque peu de temps, c'est-à-dire en 2005, est également sorti un autre livre qui reprend certains de ces arguments, enfin, où on retrouve quelques arguments similaires et puis d'autres, qui est le livre noir de la psychanalyse, qui paraît en 2005. Alors là, dans ce livre noir, il y a différents articles qui sont faits aussi bien par des historiens que par des philosophes, que par des médecins, que par des anciens patients également de psychanalystes. Et où on retrouve un peu ce... Donc l'approche est quand même assez historique et biographique, c'est-à-dire que l'une des critiques de ce livre consiste à dire que Freud aurait... Enfin, et puis les héritiers du freudisme auraient volontairement masqué, recelé un certain nombre d'archives propres à Freud et dans lesquelles... on découvre qu'il a manipulé ses résultats scientifiques, qu'il a manipulé des statistiques, qu'il voilà. Donc il y a, et puis avec toute une volonté aussi de contestation du système conceptuel installé par la psychanalyse. Donc ce livre noir. Sur des choses Lacan n'est pas en reste non plus sur tout ce qui concerne les différentes moqueries, donc j'en rappelle certaines qui sont presque devenues des légendes urbaines, sur l'homme qui ne savait faire que des jeux de mots, qui avait un cigare tordu, qui était plus préoccupé par son cigare tordu que par autre chose, avec toutes les allusions que ça peut évoquer, sur l'obsession sexuelle de Freud, sur... Plus compliqué là sur ses positions par rapport à l'homosexualité aussi chez Freud, le fait de décrire l'homosexualité comme une perversion. Bon, comment comprendre ça aujourd'hui s'il faut le comprendre. Tout ce contexte là. Et puis également rappelons Deleuze, Foucault. Alors ça j'avais déjà un peu évoqué, mais tout de même des positions aussi très tranchées vis-à-vis de la psychanalyse, position rappelée par David Rabouin dans l'article que je vous citais dans le premier cours, où il y aurait même un enjeu de domination idéologique de la psychanalyse qui chercherait à monopoliser en fait une certaine conception du sujet, une certaine conception du désir, et à devenir la recette intellectuelle, le passage obligé qu'il nous faudrait suivre pour comprendre ce que nous sommes. Voilà. Dernière, euh, dernier grand champ aussi de la philosophie qui s'attaque très très ouvertement à la psychanalyse et qui est d'inspiration anglo-saxonne, c'est évidemment tout le champ de la philosophie analytique qui a, donc c'est Wittgenstein, Russell, toutes ces philosophies inspirées par ces penseurs et où qui ont donné naissance par certains aspects aussi à tout ce qu'on relie au cognitivisme, à la psychologie cognitive, etc. Et là encore, il y a des querelles institutionnelles extrêmement fortes sur ces différentes approches. De l'autre côté, parce qu'il faut quand même situer le contexte aussi, ici, je crois qu'il ne faut pas nier non plus les responsabilités, c'est-à-dire que dans le champ de la psychanalyse, Lacan est pour une grande part, a une grande part de responsabilité dans le mépris que certains psychanalystes peuvent éprouver vis-à-vis de la philosophie. Parce que c'est... Pour Lacan, le philosophe incarne de manière très concrète pour lui ce qu'il dénonce à travers le discours universitaire. Et donc le philosophe est celui qui propage un certain savoir de manière dogmatique, qui est attaché à ce savoir, qui est attaché à rester le référent du savoir. Et Lacan est extrêmement critique vis-à-vis de cela, et il a une ironie tonitruante sur les philosophes par certains moments. Je voudrais juste vous donner certains passages de... c'est plusieurs passages des séminaires, notamment. Ça c'est un séminaire qui n'est pas encore publié, mais qu'on peut quand même, dont on peut trouver des traces quand même. C'est le séminaire sur l'identification. Je vous lis ce que dit Lacan du point de vue philosophique. Donc c'est le début, je crois, du séminaire sur l'identification. On peut trouver que je m'occupe ici beaucoup de ce qu'on appelle, Dieu donne cette dénomination, des grands philosophes. C'est que peut-être, pas eux seuls, mais eux éminemment, articulent ce qu'on peut bien appeler une recherche pathétique de ce qu'elles reviennent toujours, si on sait la considérer à travers tous ces détours, ces objets plus ou moins sublimes, à ce nœud radical que j'essaie pour vous de desserrer, à savoir le désir. C'est ce que j'espère, à le rechercher si vous voulez bien me suivre, rendre décisivement... Oui, décisivement, c'est ça, à sa propriété de point indépassable, indépassable au sens même que j'entends que quand je vous dis que chacun de ceux qu'on peut appeler de ce nom de grand philosophe ne saurait être, sur un certain point, dépassé. Donc, clairement, le philosophe est typiquement celui qui ne comprend rien au désir. Rien. Un passage du séminaire 11. Lacan s'intéresse un peu à Ricoeur. Ricoeur, il lui reconnaît ça, était allé assez loin pour accéder à ce qui est le plus difficile d'accès pour un philosophe, à savoir le réalisme de l'inconscient. Ce que l'inconscient n'est... à savoir le réalisme de l'inconscient. Que l'inconscient n'est pas l'ambiguïté des conduites, futur savoir qui se sait déjà de ne pas se savoir, mais lacune, coupure, rupture, qui s'inscrit dans un certain manque. Monsieur Ricoeur convient qu'il y a quelque chose de cette dimension à réserver. Simplement, en philosophe qu'il est, il se l'accapare. Il appelle cela l'herméneutique. Donc, il est clair que... Donc, les passages sont très ironiques sur la philosophie, et il est clair que la dénonciation de Lacan ici est, d'une certaine façon, un mépris de la volonté des philosophes de posséder l'objet de leur discours, d'en dire le dernier mot, d'en dire l'absolu. Alors, sur ce point-là, et ça va m'amener justement à voir comment peut-être on peut essayer de dépasser ces problèmes. Il me semble que, quelque part, Lacan, de ce point de vue-là, ne se trompe pas sur ce que peut être, éventuellement, l'intention des philosophes, la volonté de conceptualiser, leur idéal, ça c'est possible. Mais un texte philosophique, je dis bien un texte, le texte des philosophes, ça fait bien longtemps qu'ils s'inscrivent dans le langage comme n'importe quel texte, et que les philosophes sont largement dépassés par leurs textes et que leurs intentions sont largement dépassées par leurs textes. Si la philosophie persiste aujourd'hui, c'est précisément parce que le discours de chaque texte philosophique ne saisit pas son objet dans sa totalité. Et que si on continue de s'intéresser à la philosophie aujourd'hui, c'est précisément parce que les textes philosophiques restent paradoxaux, ambigus, incomplets, qu'il y a des ruptures, des écarts, des choses qui ne fonctionnent pas, qui clochent, bref. On peut bien prêter cette intention aux philosophes, il reste que les textes philosophiques, et d'ailleurs Lacan, de ce point de vue-là, me semble-t-il, une certaine mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il n'a cessé toute sa vie de s'inspirer des textes philosophiques. Il le reconnaît d'ailleurs, il le reconnaît. Mais si je fais un tout petit peu de psychanalyse de bas étage, il y a quand même quelque chose là de... c'est à se demander si la figure du père chez Lacan n'est pas philosophe, parce que à vouloir le citer sans arrêt comme ça pour mieux le détruire, il y a quand même quelque chose de pas réglé, là, si on peut dire. Bref, ça c'était... Quel est mon but en disant tout cela? Mon but, c'est de dire que si on essaye de réunir un peu toutes ces attaques de part et d'autre, qu'est-ce qu'on constate? On constate le plus souvent que ces attaques portent sur quoi? Une personnalité, une institution, des relations politiques, des relations institutionnelles, parfois idéologiques. C'est normal, c'est très passionnel, on est encore en plein dedans, enfin, à l'échelle historique, les relations de la philosophie et de la psychanalyse, on les vit encore, donc ça fait à peine un siècle, et c'est difficile de prendre du recul par rapport au débat passionnel que tout ça peut susciter. Mais au fond, est-ce que là-dedans, il n'y a pas seulement des querelles de personnes, des querelles d'ego, des querelles bien humaines, trop humaines peut-être, comme diraient certains, mais si on essayait de revenir, justement, peut-être que Laclau nous y invite d'ailleurs, à quoi il faut revenir quand on est dans une liaison dangereuse? Ben, à la lettre, c'est-à-dire en l'occurrence à la lettre des textes. Et il me semble qu'on peut revenir à une chose extrêmement simple, factuelle, qui nous permettrait peut-être de ne pas en rester à ce débat. C'est que si vous prenez tous les philosophes, tous les plus grands philosophes du XXe, en particulier, bon, citons, ne serait-ce qu'en France, Derrida, Ricoeur, Merleau-Ponty, Sartre, Deleuze, Foucault, Michel Henry, j'en passe, et des meilleurs sans doute, tous, sans exception, ont consacré de très nombreuses pages et un temps de lecture extrêmement grand aux découvertes de la psychanalyse. Que ce soit dans une critique positive ou négative, tous. Lacan, de son côté, ne cesse de s'inspirer des textes de la philosophie. Et il va, je prends un petit exemple, dans un de ses séminaires, il fait une référence à Kant, et notamment un petit essai de Kant qui s'appelle l'essai sur les grandeurs négatives. Et il dit, oulala, dans cet essai, à un moment, Kant se livre à un espèce de calcul des plaisirs qui a quelque chose, le mot est de Lacan, de croquignolet. C'est ce qu'il me dit. Mais l'essai sur les grandeurs négatives, c'est aussi quelque chose qui a très fortement inspiré Lacan pour sa conception de l'inconscient. Bref, ce petit rappel historique pour vous dire que si l'on revient simplement aux textes, aux œuvres, les relations de la philosophie et de la psychanalyse, elles sont tout simplement existantes, elles sont dans une référence continuelle l'une à l'autre, de part et d'autre, et il y a là quelque chose à chercher de la difficulté de cette relation. Alors, de quoi repartir? J'avais dit que j'allais partir du texte et de partons simplement de ce que la psychanalyse, si vraiment elle apporte un changement considérable dans la philosophie, comme je vais essayer de vous le montrer, il faut repartir de ce qu'elle présente comme sa découverte majeure, à savoir l'inconscient. Il est clair que la découverte de l'inconscient apporte un chamboulement terrible dans la philosophie. Mais il me semble, pour une mauvaise et pour une bonne raison. La mauvaise raison, en fait, ce serait, et je vais essayer de la développer un peu, parce qu'il faut que je justifie, me semble liée à une mauvaise interprétation de certains philosophes de la notion d'inconscient. Et cette mauvaise interprétation, elle est au cœur d'un très grand nombre des critiques des théories philosophiques sur l'inconscient. Quelle est cette interprétation? La plupart, enfin, un grand nombre de philosophes, et je vais en citer certains, ont pensé que l'inconscient était une nouvelle manière d'expliquer, j'ai dit bien expliquer, un comportement humain. C'est-à-dire que l'inconscient reflétait une cause cachée en nous et qui nous déterminerait. Autrement dit, l'inconscient s'était instauré dans la philosophie, ce qu'on pourrait appeler une nouvelle forme de déterminisme. Et ça, évidemment, ça a inquiété un très grand nombre de personnes. Et donc je vais rappeler leur critique de ce point de vue-là. Le premier, évidemment, c'est Sartre. Ouh là là, ma liberté. Donc Sartre pense que la notion d'inconscient est en fait une nouvelle forme de déterminisme. Et évidemment, là, il est en train de... au moment où il s'intéresse à la psychanalyse, il est aussi en train de fonder toute sa théorie de la liberté sur avec l'être et le néant notamment, mais bien d'autres ouvrages, et l'existentialisme et l'humanisme également. Et donc que dit-il? Ben, il va s'intéresser d'assez près à Freud, hein, et va dire au fond, ben, voilà, l'inconscient, c'est un processus de refoulement, on va essayer de se cacher à soi-même des représentations. C'est ça qu'il comprend de Freud, je caricature un peu, mais c'est ça qu'il comprend. Et il dit, bah, au fond, s'il y a refoulement, s'il y a ce processus de comment dire, s'il y a cette volonté de ne pas voir, parce que c'est ça chez Sartre, c'est que ça n'est qu'un des cas de ce que moi, Sartre, j'appelle la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que, au fond, s'il y a ce processus de refoulement, qui est-ce qui exécute ce processus de refoulement de nos représentations, des causes cachées? C'est la conscience elle-même. Et je me le cache à moi-même, et c'est tout. Donc Sartre dit, au fond, on peut très bien expliquer les mécanismes que décrit Freud, grâce à la conscience, il n'y a pas du tout besoin de faire référence à l'idée d'inconscient. C'est la conscience qui décide à un moment donné de refuser de voir quelque chose qui lui est insupportable, et c'est à la conscience qu'il faut revenir. Et si le sujet veut vraiment sortir de cela, il en a toujours la liberté, pour Sartre. Et donc vous voyez bien que le fond de cette critique, c'est de croire, en somme, que l'inconscient est une nouvelle forme de déterminisme. Et c'est comme ça que Sartre le comprend. Autre, pardonnez-moi, je survole un peu rapide, mais il faut quand même aussi essayer de voir le contexte. Une autre critique extrêmement célèbre de la notion d'inconscient dans la philosophie, c'est celle d'un philosophe des sciences qui s'appelle Popper, et qui lui va s'attaquer à un point très très précis de la notion d'inconscient. L'une des revendications de Freud au départ, je reviendrai là-dessus, c'est notamment, il écrit dans Métapsychologie. Dans Métapsychologie, Freud dit que il est très important pour lui qu'on accepte que l'hypothèse de l'inconscient a une valeur scientifique. Il veut travailler scientifiquement avec cette hypothèse, dit-il. Ça, ce sont ses mots. Et c'est ce point-là, précisément, que Popper va attaquer. C'est-à-dire, il va dire, voilà, l'inconscient, c'est peut-être une théorie intéressante, mais j'en conteste la validité scientifique. Pourquoi ? Parce que, dit Popper, l'inconscient ne répond pas à un critère que Popper appelle le critère de réfutabilité. Et je vous donne un exemple de ce critère. Qu'est-ce que signifie ce critère ? Ça veut dire qu'une hypothèse scientifique d'explication d'un phénomène, d'un événement, d'un comportement, peu importe, doit toujours faire l'épreuve de sa validité. Or, qu'est-ce qui se passe avec l'hypothèse de l'inconscient selon Popper ? Ben, c'est quelque part pour lui une hypothèse trop facile. Popper dit, voilà, si un individu a un comportement, on pourra toujours dire que ce comportement est causé par l'inconscient, que l'explication de ce comportement est dans l'inconscient de l'individu. Il dira, c'est peut-être une théorie intéressante, mais en aucun cas elle peut être scientifique parce que la personne qui vous affirme ça, ben, vous n'avez aucun moyen ni de la contredire, ni de la confirmer. Pour quelle raison ? Parce que l'inconscient, ce n'est pas observable scientifiquement, on ne peut pas en faire l'épreuve, on ne peut pas argumenter, on ne peut pas... Vous pouvez très bien dire, vous pourrez toujours dire que l'inconscient est responsable. Et que ça, ça n'a pas une valeur scientifique. Autre chose aussi, ça c'est un exemple plus concret utilisé dans un des textes de Popper. Popper compare Freud et Adler. Et Popper dit... Voilà, il y a un comportement humain, quel qu'il soit. Freud apporte une explication grâce à l'inconscient, Adler apporte une explication grâce à sa théorie psychologique. Deux explications éventuellement contradictoires entre elles. Or, les deux explications restent valables. Donc Popper dit, ça c'est pas possible, c'est pas scientifique. Si deux explications contradictoires sont valables l'une et l'autre, l'hypothèse d'explication apportée par l'inconscient ne fait pas l'épreuve de sa réfutabilité. Donc, on ne peut pas argumenter, on ne peut pas raisonner, donc l'hypothèse n'est pas scientifique. Donc, c'est ce point-là précisément que Popper critique. Donc, même chose, vous voyez que là, ce qui est important, c'est que là encore, Popper comprend la notion d'inconscient comme la cause d'un comportement. Ce qui vient expliquer un comportement. C'est ce point-là qui me semble vraiment poser problème. L'un des arguments employés par certains philosophes, qui de mon point de vue sont peu rigoureux, consiste à dire « Freud, quand même, il manque vraiment de rigueur. » Là, je change un peu de point de vue. Il manque vraiment de rigueur parce que sa découverte, c'est l'inconscient et il ne l'a jamais défini. C'est un concept, il ne l'a jamais défini. Il a juste passé des milliers et des milliers de pages à essayer de comprendre ce que c'était, mais il ne l'a jamais défini. Et bien justement, l'inconscient... Alors, c'est vrai que à aucun moment, mais c'est justement parce que l'inconscient n'est pas une cause ni un concept, Freud a énormément évolué dans sa conception de l'inconscient. Je vous donne un échantillon de la manière dont il l'approche. Si vous prenez la science des rêves, Freud dit, l'inconscient, il reste vague, c'est l'essentielle réalité du psychisme. L'expression de la science des rêves. L'inconscient, c'est l'essentielle réalité du psychisme. Et puis, on connaît, ça évolue, il y a l'inconscient comme relié aux différents topics de Freud. La première, la deuxième, l'inconscient, c'est un système. C'est un système qui met en relation le « ça », c'est-à-dire l'ensemble de nos pulsions, le « moi », unité idéale du sujet, le surmoi, l'ensemble des interdits et des contradictions, pas des interdits et des moraux notamment qu'on acquiert par notre culture ou notre éducation. Donc l'inconscient, c'est un système. Et puis si vous prenez d'autres textes, je ne vais pas reciter à chaque fois, mais l'inconscient, qu'est-ce que c'est? Ben, l'inconscient, c'est un processus. Un processus de refoulement, de condensation, de déplacement, de transfert. L'inconscient, parfois, c'est quoi? C'est un traumatisme, c'est un événement, c'est une pulsion refoulée, c'est une représentation refoulée. Donc, dans tous ces textes-là, c'est vrai, la définition de l'inconscient n'est pas fixe. C'est vrai. Mais, en revanche, ce que ça montre, c'est que l'hypothèse de l'inconscient humain conduit Freud à une création conceptuelle et à une approche de l'expérience tout à fait nouvelle et inédite. Alors, pourquoi est-ce qu'à partir de là, à partir de cette diversité justement d'approches, de définitions, pourquoi est-ce que, à mon avis, on ne peut pas comprendre que l'inconscient est une cause cachée? Au fond, ce que j'aimerais maintenant essayer de montrer, c'est pourquoi l'inconscient, cette théorie de l'inconscient, est une nouvelle forme de l'étonnement. Et qu'est-ce que c'est que cet étonnement? Qu'est-ce qu'il crée? Du point de vue de la philosophie, cette fois. Pourquoi c'est un coup de force terrible dans la philosophie, cette hypothèse de l'inconscient? Alors, qu'est-ce que j'entends par coup de force? Je vais vous en donner quelques exemples. Au XVIIe siècle, un philosophe qui s'appelle Locke fonde ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'empirisme. On peut aimer ou ne pas aimer tout le système de la philosophie de Locke. Mais qu'est-ce qui est fondamental chez Locke? C'est que, à un moment donné, Locke se pose une question. Et si notre conscience ou notre esprit n'était au fond, du point de vue de ce qu'il contient et du point de vue de sa formation, que le résultat d'un ensemble d'expériences? Et bien ça, c'est rien que cette question-là est, à ce moment-là, un coup de force terrible dans l'ensemble de la philosophie. Pourquoi? Parce que l'esprit, la conscience, jusqu'à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? Ben, je vous passe les détails, mais il y a toute l'influence religieuse liée à la notion d'esprit, tout le lien au divin, tout le lien à... Non, Locke dit, ce que contient notre esprit, c'est lié à notre expérience. Et si ça fonctionnait comme ça? Ça, c'est un coup de force terrible en philosophie. Ça change complètement la manière de voir, la manière de se rapporter au monde, la manière de se rapporter à la réalité. Voilà ce que j'entends par coup de force. Autre exemple, on va lier les choses à Locke. Donc Locke fonde une tradition derrière lui. Hume, Condillac, pour n'en citer que très peu, mais Kant, qu'on soit kantien ou non. Que dit Kant? Eh bien, il va se réintéresser à cette notion d'expérience, Kant. Et il va se demander, mais les empiristes, alors Kant il s'est surtout intéressé à Hume, les empiristes disent, tout notre esprit vient, tout ce qu'il y a dans notre esprit vient de notre expérience. Et Kant se pose une question, mais je la schématise un tout petit peu, est-ce que je pourrais avoir l'expérience de quoi que ce soit si vraiment mon esprit ne contenait rien a priori, dit Kant, c'est-à-dire avant même toute expérience? Est-ce qu'il est possible que j'aie l'expérience de quoi que ce soit dans le monde si je n'ai pas d'abord en moi un certain nombre de notions qui me permettent d'avoir cette expérience? Et boum, révolution philosophique. Tout ce qu'on appelle l'idéalisme transcendantal, la phénoménologie, etc., tout ça, ça vient de là. Alors, où est la forme de coup de force, me semble-t-il, sur la notion d'inconscient? Et pourquoi le problème de l'inconscient, c'est pas qu'une de fonder une nouvelle explication ou une nouvelle cause cachée? grosso modo depuis le XVIIe siècle, comment est-ce qu'on envisage notre rapport à la réalité dans la philosophie. On dit une chose, nous avons un ensemble d'expériences et tout notre rapport à la réalité passe par des représentations. J'ai l'expérience de quelque chose, je vois cette écharpe, si je suis empiriste, je dis, hop, ça y est, j'ai l'idée du rouge en faisant cette expérience. Et mon expérience est une représentation. J'ai en moi la représentation de cet objet. Que vous parliez de l'empirisme, de l'idéalisme, de toutes les formes de tradition philosophique, toutes. On va mettre à part Nietzsche qui commence à ébranler un peu tout ça. Mais dans toutes les philosophies, l'expérience est traduite par la prise de conscience d'une représentation. Ça ne veut pas dire que cette représentation est forcément le décalque de la réalité, qu'elle ne nous trompe jamais. Je dis pas ça. Je dis juste que ce que vit le sujet, dans son expérience, au fond, ça se réduit à quoi ? À une représentation qui est quelque chose d'adéquat à l'expérience. Expérience vécue, encore une fois, pas forcément d'adéquat à l'objet extérieur. Je reviens au texte de Freud, de Métapsychologie, où, à mon avis, il est assez clair et, justement, contrairement à ce qu'on peut penser, extrêmement modeste dans son hypothèse. Il dit une chose, au fond, extrêmement simple, Freud. Il dit, et si notre expérience ne se réduisait pas aux représentations qu'on a. Et si il y avait un décalage, un manque, quelque chose d'inconnu, un écart entre la pensée immédiate de notre expérience et l'expérience elle-même. Et si ce que nous vivions, si le champ de notre expérience vécue ne se réduisait pas à nos représentations conscientes. Il dit juste ça. On me conteste de tous côtés le droit de travailler scientifiquement avec l'hypothèse de l'inconscient. Pourtant, il y a quelques signes très simples de la vie, dit Freud, qui suffisent à montrer que les données de la conscience, là je le cite, les données de la conscience sont extrêmement lacunaires. Tout ça c'est dans Métapsychologie. Est-ce que vous pouvez imaginer le coup de force, là ? D'un seul coup, on se dit que l'expérience subjective du sujet, l'expérience subjective n'est plus, il n'est plus possible de la traduire uniquement dans une représentation consciente. C'est tout l'empirisme, tout l'idéalisme qui est remis en question. C'est toute la tradition de la philosophie qui est remise en question. Parce que le champ de ce que nous vivons ne se réduit plus à nos représentations. Et Freud ne dit pas que c'est le cas, il pose l'hypothèse. Il dit, l'inconscient est une hypothèse. Et je veux travailler scientifiquement avec cette hypothèse. Là, on a une forme d'étonnement philosophique, psychanalytique, mais finalement peu importe le terme. Extrêmement fort. Parce que, d'un seul coup, imaginez le nombre de questions qui surgissent à partir de là. Qu'est-ce que devient la conscience ? Dans quelle mesure est-elle le signe de la vérité ou non ? Est-ce qu'il suffit de travailler sur notre raison pour connaître la vérité ? Pour Descartes, il suffit de travailler sur notre raison pour connaître la vérité. Discours de la méthode. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Savoir s'organiser, etc., etc. Imaginez le nombre de questions que ça rouvre dans la philosophie. C'est un scandale, ça ne peut être que scandaleux. La philosophie, qui s'est toujours conçue comme la pensée, on lui dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui échappe à la pensée, c'est l'expérience. On lui dit que sa volonté d'enfermer les choses dans un concept, une pensée, que quelque part, le concept, c'est peut-être un leurre. Bref, vous remettez son discours, ses théories, son idéal de vérité, vous remettez tout en question. Et la plupart, voire tous, tous les philosophes du XXe siècle ont admis ce coup de force. Même Deleuze, qui est pourtant, il écrit l'anti-Œdipe, où il attaque un système, il est contre le système de... il dit que le système de la triangulation œdipienne, etc., n'explique rien dans le... que tout ça. Mais peut-être, peut-être pas, et ses arguments sont forts pour le montrer. Mais son premier geste à Deleuze, c'est de dire que il est extrêmement important d'admettre aujourd'hui que la réalité de ce que nous vivons ne se réduit pas à la prise de conscience d'une représentation, que nos représentations sont insuffisantes. Tous l'admettent. Ils n'en tirent pas les mêmes conséquences. Et à mon avis, s'il m'est permis de faire une toute petite allusion personnelle, j'ai dit ici à un moment que j'étais passionné par Merleau-Ponty parce que je pense que Merleau-Ponty est l'un des seuls, on va pas dire le seul parce que je connais pas toute la philosophie, mais est l'un des seuls à prendre la mesure du bouleversement que cette hypothèse de l'inconscient amène dans la philosophie. Donc, qu'est-ce qui est important dans le... Est-ce qu'au fond, dans le geste... J'aime bien parler de geste parce qu'on est dans la question du style, mais dans le geste accompli par Freud, est-ce que c'est d'appliquer à la lettre la théorie du ça, du moi et du surmoi, la triangulation œdipienne, enfin, est-ce que c'est d'appliquer comme des schémas dogmatiques ce type de théorie sur lesquels d'ailleurs Freud lui-même a longtemps hésité. Quand il parle, je vous donne un exemple très simple. Il dit je crois que c'est dans la deuxième topique, topos, le lieu, c'est une représentation spatiale. Lui-même avoue, bon voilà, c'est une représentation que je vous donne pour comprendre, mais il ne s'agit pas de le prendre au pied de la lettre. Le ça, le moi et le surmoi, ce sont des dimensions que je donne pour comprendre, mais il ne s'agit pas d'appliquer ça comme un dogme, comme un schème qui serait sans arrêt applicable. Donc, ce qui est vraiment important, c'est l'étonnement qu'il amène. Et ça, là, il y a un vrai style philosophique. Et peu importe que ce soit un neurologue ou un psychanalyste qui le fasse. C'est cet étonnement-là. Et il me semble vraiment très important de prendre conscience de la radicalité de la question posée par Freud. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, me semble-t-il, l'étonnement qu'il amène. Et qu'est-ce qui se passe si on admet, et plusieurs signes de la vie courante semblent nous le montrer, qu'est-ce qui se passe si on admet que notre expérience n'est plus réductible à la conscience d'une représentation? Si on ne peut plus assimiler les deux choses? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est le seul à poser cette question-là de manière aussi radicale et à essayer ensuite de le systématiser. On peut critiquer la suite, on peut... voilà, peu importe, mais au fond, si on admet ça, y a un tas de questions qui s'ouvrent. Si quelque chose nous échappe, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est lié à la conscience? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une pulsion? Les hypothèses seront multiples. Dernière chose pour vous montrer, ça c'est une hypothèse, l'influence que tout cela a pu avoir aussi dans la philosophie au XXe siècle de manière un peu sous-jacente. Deleuze et Foucault étaient contre la psychanalyse, contre, avec les nuances que j'ai apportées tout à l'heure concernant Deleuze et même sur Foucault il y aurait à en faire. Mais Deleuze et Foucault sont aussi des philosophes dont le cœur de la philosophie consiste à faire quoi? Chez Foucault, et chez Deleuze aussi d'ailleurs, à remettre en cause la suprématie de la représentation dans la philosophie. À remettre en cause la question du sujet. qui est important, c'est pas le sujet, le sujet au sens cartésien, au sens de sujet conscient, pour Deleuze comme pour Foucault, pour des raisons différentes. Chez Deleuze, c'est pour ça qu'il fondera à partir de tout ça une ontologie du désir. L'important, c'est pas le sujet, c'est le désir par lequel nous sommes traversés. Chez Foucault, ça sera plus compliqué, il y a une approche un peu structurale. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet chez Foucault? Ben, c'est quelque chose, dit-il, qui se définit par l'extériorité de ses voisinages. Une définition un peu... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sujet, c'est pas quelque chose de saisissable, c'est quelque chose qu'on définit uniquement par ses frontières. Bref, je n'entre pas là-dedans, ça c'est dans le... Si ça vous intéresse, c'est dans l'archéologie du savoir. Mais est-ce que c'est vraiment un hasard? On peut au moins se poser la question. Si, au XXe siècle, tous les philosophes s'intéressent à la psychanalyse et qu'un grand nombre de philosophies, et chez Merleau-Ponty aussi, ça vaut ça d'ailleurs, la remise en question de la notion de sujet. Est-ce que c'est vraiment un hasard si, après le coup de force de Freud, comme par hasard, la notion de représentation est attaquée? Si la notion de sujet au sens cartésien est attaquée? Même si ces philosophes ne suivent pas la lettre de la psychanalyse et condamnent un certain nombre de systématisations psychanalytiques, ils admettent tous la puissance de la question posée par Freud. Et là, le but, c'est pas de reconstituer une nouvelle querelle de paroisse, on s'en fiche. Le but, c'est de montrer que dans cette question freudienne, il y a un étonnement qui est source de sens pour la philosophie et pour le domaine intellectuel en général. Donc quand j'essayais de vous dire que l'étonnement philosophique est quelque chose qui instaure une rupture terrible, qui est hors de tous les systèmes de représentation établis, que c'est quelque chose qui est lié au désir et qui va justement faire sens, ben c'est l'exemple type. L'exemple type et des coups de force de ce type au niveau intellectuel au XXe siècle, il n'y en a pas 50. Il n'y en a pas 50. Donc, à mon avis, et je terminerai là-dessus, il y a peut-être ce soir un aspect un peu... je m'engage un peu subjectivement, peut-être un peu plus que d'habitude, parce que je crois que ces querelles de paroisse sont inutiles. Et que, au fond, elles empêchent de suivre au niveau institutionnel, là je parle au niveau institutionnel, dans l'université, mais dans les écoles de psychanalyse aussi. Franchement, quand on voit un certain nombre d'écoles psychanalytiques aujourd'hui qui fonctionnent avec... Il y a un référent du savoir hein, dans ces écoles, hein. Lacan qui disait pas de chefferie, pas de... etc. Je peux vous garantir que dans les écoles psychanalytiques, je ne citerai pas de nom, mais ils sont suffisamment connus. Il y a aujourd'hui des gens qui incarnent le savoir sur la psychanalyse et qui sont indétrônables. Et donc le fonctionnement par rapport à l'université, personnellement, je ne vois pas une différence énorme du point de vue institutionnel. Donc, revenons au texte, revenons à un certain nombre de... revenons aux questions posées par ces auteurs, et puis peut-être qu'il y a là une source tout à fait féconde pour l'étonnement philosophique. Je vous remercie.